Bon matin, nouvelle vie Charlevoix, vous allez bien? C'est vraiment une joie d'être avec vous aujourd'hui tous les deux et merci pour votre bel accueil. Vraiment, au début de la réunion, on a eu la chance de parler avec plusieurs d'entre vous et on se sent comme à la maison ce matin. Alors, merci beaucoup pour votre accueil. Puis, on tenait aussi à remercier vos pasteurs. Savez-vous que vous avez des pasteurs incroyables? Si vous le savez, on tenait juste à vous le redire, mais eux aussi sont des pasteurs dévoués qui vous aiment énormément. Nous, on les côtoie à chaque semaine. On a des Zooms où on se rencontre à chaque semaine. Ils nous partagent les bonnes nouvelles de tout ce qui prend place à Nouvelle Vie Charlevoix et vous êtes aimés de vos pasteurs, sachez-le. Et aussi, on veut honorer Pasteur André, Céline qui font partie de l'équipe pastorale qui font vraiment un ministère incroyable. Toute la famille au grand complet. Est-ce qu'on peut les applaudir ce matin et les remercier?
C'est vraiment un privilège pour nous d'être là aujourd'hui. Puis ça fait 15 ans qu'on est au Québec. On a fait l'école biblique, puis Julien, on a gradué ensemble quasiment. On a fait nos 3 ans d'école biblique ensemble quand on est arrivé fraîchement de notre jeunesse. Et on a grandi ensemble, on a grandi dans l'œuvre de Dieu. Puis c'est vraiment une joie maintenant de servir ensemble aux 4 coins du Québec et jusqu'en francophonie. Il y a vraiment le message qui rejoint partout. Et désolé pour tantôt, j'ai dit bienvenue à Nouvelle-Ville, la Prairie. C'est un défaut professionnel, mais on est une seule église sur cette site, donc c'est ça qui est bien. On aimerait se présenter, on va apporter le message en couple ensemble, Sophie et moi, on est pasteur de Nouvelle-Ville à Prairie depuis maintenant 4 ans, et on aime apporter les messages ensemble. Je crois vraiment que Dieu nous donne, non seulement dans le couple, mais aussi dans le ministère, d'être complémentaires l'un et l'autre. Alors, vous avez vraiment le duo aujourd'hui, et avant de rentrer dans le message, je veux vraiment se présenter, vous expliquer un peu qui on est. Ça fait maintenant 15 ans qu'on est au Québec et en fait, ça fait 15 ans qu'on est mariés. On s'est mariés le 28 juin 2008 et on est arrivés en août ici au Québec. Et donc, ça fait que cette fin de semaine-ci, on fête nos 15 ans de mariage. On peut applaudir ma femme qui est courageuse. Et on a 3 beaux enfants. Il y a une photo qui va arriver, 3 beaux enfants. On a Lenny qui a 8 ans. Jackson qui a 5 ans et notre petite fille qui est en route ici pour le mois d'octobre. Donc, on est vraiment heureux d'accueillir ces 3 Québécois à la maison. Ils sont là. Alors vraiment, aujourd'hui, on aimerait vraiment vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, ce sont les relations. Et c'est un sujet qui est vraiment autant parlé de toutes les manières. Je crois qu'à l'Église, c'est vraiment, vraiment important qu'on en parle et on va en parler ensemble ce matin.
Et on veut parler de ce thème parce qu'on croit que les relations, en fait, sont au cœur de notre quotidien, que vous l'avez remarqué, que ce soit dans votre milieu de travail, votre famille ou même au sein de votre couple, les relations sont continuellement présentes. Mais la plus grande des questions, c'est comment faire en sorte qu'on puisse réussir nos relations, vivre des relations aussi saines, épanouies. Et parce qu'on le sait tous qu'une relation peut être aussi forte qu'elle est fragile, n'est-ce pas? Et lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'en fait, Dieu nous a créés, chacun d'entre nous, pour être des personnes relationnelles, non seulement avec lui, mais aussi avec toutes les personnes qui nous entourent. Et ce matin, le titre de notre message est « Comment vivre des relations réussies ?» Et vous savez, on l'a dit, les relations sont importantes pour Dieu, parce que lorsqu'on lit sa parole, de long en large, Dieu nous en parle, comment vivre au sein du couple, de la famille, de nos amitiés, comme on l'a dit. Pour lui, les relations ne sont jamais secondaires. C'est pour ça qu'on va en parler ce matin. Et on croit aussi que ce qui est important pour Dieu doit l'être pour nous. Et on veut vous amener vraiment dans ce thème ce matin. Et la première vérité, c'est que Dieu, avant tout, est un être qui est lui-même relationnel. Mmh.
Parfois, on a l'imaginaire dans la société que Dieu est tellement lointain qu'il est là-bas en train de siéger dans le ciel et puis complètement à abandonner l'humanité depuis toujours et puis on se revoit juste à la fin du monde. Pas du tout. En fait, Dieu est relationnel. Il a créé l'humanité non pas pour être loin d'elle, mais au contraire, pour être constamment près d'elle, en communion, en relation avec elle. Et c'est là où on veut expliquer vraiment que le Dieu de la Bible, peut-être qu'il a été mal présenté certaines fois où on voit un Dieu qui est un Dieu sévère, un Dieu en colère, qui regarde l'humanité pécheresse en disant ben, « j'ai hâte de la condamner ». Au contraire, notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, est un Dieu qui est complètement relationnel, en train de rechercher constamment à être en communion, en relation, en réconciliation, on pourrait dire ça, avec l'humanité. Et vous savez, même cette fin de semaine où en fait la Saint-Jean-Baptiste, on la connaît comme ça, c'est une fête nationale, mais en fait, Saint-Jean-Baptiste, on pourrait dire que Jean-Baptiste dans la Bible, son ministère était d'expliquer aux gens, attention, Dieu, celui qui arrive, Jésus après moi, veut venir être en relation avec l'humanité. Alors, il aplanissait le sentier, il criait, c'était comme une voix qui criait dans le désert en disant, il arrive, il y a une bonne nouvelle qui arrive parce que Dieu s'est fait homme pour venir rejoindre l'humanité. Alors, notre Dieu n'est jamais un Dieu lointain qui nous voit de loin, au contraire. Au plus tu veux être proche de lui, au plus c'est son désir le plus grand. Alors aujourd'hui, on veut vous dire que Dieu est relationnel. Toute la Bible démontre justement son désir d'être réconcilié avec l'humanité, de la pardonner, de l'encourager, d'être toujours là avec elle, tel un ami. Et c'est ça qui est frappant, parce qu'on voit souvent le côté de la religion où Dieu est vraiment celui qui juge, alors qu'en fait, en ce moment, il est notre avocat. Et c'est Jésus, même dans Jean 15:15, qui nous dit « Je ne vous appelais plus serviteur », en parlant à ses disciples, en parlant à nous aujourd'hui, « mais je vous ai appelé ami ». Imaginez qu'on peut avoir un lien d'amitié avec le Dieu créateur. Et ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Aujourd'hui, même l'Église, la prédication, par le fait même qu'on soit ici, c'est pas un événement du dimanche matin, c'est pas un événement du samedi soir quand on a notre réunion. L'Église est une famille, l'Église est aussi le moyen pour Dieu d'exprimer à l'humanité, à son Église qui la connaît, mais à l'humanité qui ne la connaît pas. Je suis un Dieu qui est venu vers vous, qui vient encore aujourd'hui. Et par la prédication, ce qu'on veut, c'est vraiment démontrer que le désir de Dieu est d'être proche de chacun d'entre nous. Alors si vous êtes en ce moment comme loin de Dieu et que vous dites « Oh, j'ai vraiment besoin de l'Église un peu pour savoir où j'en suis », t'es à la bonne place. Mm-hmm. Que tu sois aujourd'hui à la meilleure phase spirituelle de ta vie, génial, tu peux encore t'approcher plus de Dieu. Et aujourd'hui, son désir, c'est de s'approcher de nous. Est-ce qu'il y en a qui sont reconnaissants ici ce matin pour ça?
Et en fait, la relation la plus importante, mais aussi la plus belle, je crois, qu'on puisse avoir dans nos vies, et celle qu'on peut avoir aussi avec Dieu. Comme Ben l'a dit, c'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche qui veut notre épanouissement ici-bas sur terre à chaque jour. Et au plus on va avoir une relation qui est solide avec Dieu, au plus elle va aussi être réussie avec les autres. C'est la relation qui est à la base de tout. Et vous savez, la Bible nous parle des relations et d'amour également. Et on voit aussi que Dieu est amour lui-même. Et ce qu'il veut, c'est que sa création, mais toi, moi, on puisse être en relation avec lui, qu'on puisse recevoir, expérimenter. Mais aussi, ce qui est fort, c'est qu'on puisse partager l'amour que nous avons reçu. La Bible le dit, qu'on puisse l'aimer de tout notre corps, de tout notre cœur, de toute notre force et notre esprit, mais aussi aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ce qu'on veut vous inviter à faire ce matin. Vous savez, l'amour est un principe central lorsque tu lis la parole de Dieu pour que tu puisses interagir notamment avec Dieu, mais aussi avec les autres. Ce matin, on veut peut-être rappeler à quelqu'un, sache que tu es aimé de Dieu. Dieu veut te rappeler ce matin, je t'aime, on l'a chanté ce matin, tu es mon enfant, je suis enfant de Dieu. Et on t'invite à croire cette vérité, mais que toi aussi tu puisses grandir dans l'amour qu'il a pour toi. C'est Philippiens qui dit ceci, c'est Paul aux Philippiens qui dit « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Et ce qu'on lit dans la parole de Dieu ce matin, on veut le rendre pratique pour vous, pour que ce matin vous puissiez repartir de l'Église et le mettre en pratique dans votre quotidien.
La première vérité, c'est que Dieu est relationnel. La deuxième vérité qu'on veut parler avec vous, c'est que notre mission à nous, c'est d'aimer mieux. D'aimer mieux, oui, Dieu, mais les autres autour de nous. Dieu a dit, c'est par l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres que les gens verront, entre guillemets, qui je suis. Il y a un témoignage que nous avons dans nos relations qui est hautement spirituel. Et vous savez, le mot aimer peut être banalisé aujourd'hui. Tu peux dire autant j'aime le popcorn, oh j'aime ta photo Facebook, je like partout. Et c'est le même mot qu'on va utiliser quand on va lors des vœux du mariage, je t'aime jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le mot aimer peut être parfois banalisé alors que c'est la plus haute. Le plus haut niveau de sentiment et d'émotion que l'humanité peut avoir. J'espère que vous me regardez pas en disant ah bon, je vous apprends rien aujourd'hui. L'amour est fort vraiment. Mais est-ce que les gens autour de vous savent que vous les aimez? Est-ce que vous désirez les aimer de mieux en mieux, toujours de plus en plus? Ou en ce moment, vous dites, ça va dépendre de qui. Mon amour est comme un peu circonstanciel. Comment aujourd'hui, en fait, et il y a des couples ici, il y a des familles, il y a des bénévoles qui travaillent ensemble dans les mêmes... Peu importe tes relations en ce moment, ton amour doit toujours grandir. Tu dois abonder en amour. Et aujourd'hui, si tu veux savoir si quelqu'un, s'il se sent aimé par toi, fais juste un test. Si vous êtes marié, si vous êtes en couple, ou alors si vous êtes bénévole ensemble, tu dis, OK, de 0 à 10, à combien te sens-tu aimé par moi? Il y en a qui sont en train de réfléchir. Hein.
Oh. C'est une question.
C'est une question. C'est une
je
question
dois répondre
que... Non, réponds pas. On va gérer notre linge sale en privé. Non, bref. Mais imaginez que vous disiez ça à votre époux, à vos enfants, à vos parents, peu importe. Et si le numéro est en dessous de 10, la deuxième question, c'est comment je peux faire pour t'aimer mieux? Comment je peux faire pour te faire ressentir que je t'apprécie? Parfois, on croit qu'on aime les gens 10 sur 10. J'espère. On sait que notre amour est imparfait, mais on veut se donner tellement. Mais si vous êtes à 7 ou à 8 et que l'autre personne dit non, en ce moment, j'ai l'impression que c'est 4, comment je peux faire pour te démontrer plus mon amour?
Oui, la grande question ce matin, c'est comment aimer mieux les gens qui nous entourent. Et je ne sais pas si vous connaissez le livre de Gary Chapman, « Les 5 langages d'amour ». Nous, il nous a vraiment inspiré, encouragé dans notre vie maritale, mais aussi dans notre relation avec les autres. Et en fait, c'est un livre qui a été vendu à plus de 20 millions de copies. Encore en ce moment, il est sur la liste des best-sellers au New York Times. Et il a été traduit en 50 langues. Et c'est vraiment un livre qui peut être une source d'inspiration pour comment pouvoir vivre l'amour avec les gens qui vous entourent.
Ouais, c'est un auteur chrétien qui, en se basant sur les textes de la parole de Dieu et en rencontrant des centaines de couples, des milliers de personnes, il faisait du counseling dans l'église, il s'est rendu compte que les gens s'aimaient mais ne le savaient pas vraiment. Et parfois, même dans l'amour, ils se blessaient parce qu'ils ne parlaient pas, et c'est pour ça qu'il a écrit son livre « Les 5 langages de l'amour », ils ne parlaient pas le même langage de l'amour. Et puis, on n'est pas en train de parler que c'est vraiment quelque chose de complètement... Mais parfois, on veut démontrer à quelqu'un qu'on l'aime et l'autre ne le ressent pas comme ça. Et il a écrit ce livre, justement, en se basant sur la parole de Dieu, qui est vraiment, vraiment un intéressant. Il a conclu, justement, qu'il y avait à peu près 5 langages de l'amour différents et que toutes les actions, intentions, paroles pouvaient être contenues dans ces 5 langages. Et justement, ce principe-là s'applique dans toutes nos relations, autant avec les membres de notre famille, dans notre couple, nos amis et même notre église locale. Le défi aujourd'hui, c'est que vous puissiez pas seulement recevoir de l'information, mais que vous puissiez voir que l'information est pratique pour mettre en place que notre amour, que votre amour à Nouvelle Vie Charlevoix grandisse et que partout, ceux qui servent ensemble, ceux qui arrivent de l'extérieur que vous ne connaissez pas, vous disiez, on se connaît pas, mais on s'aimait déjà, on t'aimait déjà avant même que tu arrives, comme Dieu veut que nous aimions les uns et les autres. Est-ce que vous êtes prêts à être défiés dans l'amour ce matin?
Yes.
Parfois, on démontre à l'autre le langage d'amour qu'on aime, mais pas forcément celui qu'on a besoin. Et c'est pour ça que parfois, les gens s'aiment sans vraiment se comprendre. Et on va regarder un peu comment ça se passe pratiquement.
Et en fait, dans son livre, il explique le principe de la langue maternelle. En fait, on a tous une langue principale et on a besoin que l'autre puisse comprendre quelle est notre langue. Parce que si je viens de parler, que tu comprends juste l'anglais et que je te parle espagnol, à un moment donné, il va y avoir une mauvaise compréhension.
Un problème.
Mais en fait, si tu veux te faire comprendre par l'autre, il faut que tu parles son langage. Et il y a 5 langages que Gary Chapman nous partage justement, c'est les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux offerts, les services rendus et le toucher physique. Et alors qu'on parle justement des langages d'amour, c'est quelle action je peux poser dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien, pour pouvoir le mettre en pratique. C'est la Bible qui le dit. Hein. 1 Corinthiens 16, 14 dit que l'amour inspire toutes vos actions. Est-ce que l'Église peut dire « Amen » à ce sens? Et en fait, le premier langage d'amour, c'est les paroles valorisantes. Pour certains, c'est votre langage d'amour et elles peuvent avoir un impact incroyable dans votre vie. Moi, je pense que dans mes langages d'amour, en fait, j'en ai pas qu'un. Je pense que je suis bilingue, en fait.
Oui.
Mais les paroles valorisantes, la Bible dit « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». En fait, ce que tu vas dire va pouvoir encourager ou, à l'inverse, va pouvoir blesser les gens. Donc, que tes paroles soient dites, que tes paroles soient écrites, elles ont une grande importance. Et pour cette personne, pour qui c'est son langage d'amour, les mots vont résonner très fort, la remercier, l'encourager, lui donner des compliments et le faire encore plus devant tout le monde, dans un groupe, en public, ça va lui donner un certain sentiment d'honneur. Quand vous servez le dimanche matin, Céline qui est dans les classes aujourd'hui, mais juste lui dire merci, l'encourager, la valoriser, une personne qui sert avec toi le dimanche matin, tes paroles peuvent avoir un grand impact. Et crois-moi que si t'es pas habitué de le faire au début, ça peut être très intimidant, mais au final, c'est quelque chose qui a de très puissant. Puis je vois qu'il y a plusieurs familles ici aujourd'hui. Je crois que les paroles qu'on va donner à nos enfants vont être déterminantes dans leur vie. Parfois, on les voit grandir et puis on a plus cette tendance parfois à les reprendre pour les choses qui font mal ou pour leurs manquements, au lieu de les féliciter pour leur réussite. Et nous, on a deux garçons à la maison, et les bons comme les mauvais matins, on décide que peu importe comment ça se passe, on va donner des paroles de vie. Parce que croyez-moi que dans une jeune famille, des mauvais matins, il y en a beaucoup. Même le dimanche matin, parfois, peut être un mauvais matin avant de partir. Mais juste de le dire, passe une bonne journée, je t'aime, je prie pour toi, tu vas y arriver, va changer tout le cours et donner le ton à sa journée. Puis nos enfants aussi, petits soient-ils, en fait, je crois qu'ils peuvent être des éponges. Ils vont reproduire ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et aussi, plus tu reçois des paroles d'amour, plus à ton tour, tu vas être disposé à pouvoir en donner aux autres. Alors, ce matin, je vous encourage, le ton que vous choisissez lorsque vous parlez peuvent avoir deux significations complètement différentes. J'aime ce verset dans Éphésiens 4, le verset 29 qui dit « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Amen. Alors, Nouvelle Vie Charlevoix, je vous encourage ce matin à être peut-être plus bavard que d'habitude, mais donner des paroles d'amour et d'encouragement ce matin.
Nous, ça a été un gros sujet parce que Sophie, je ne le réalisais pas, mais les paroles étaient extrêmement importantes. Et moi, je suis quelqu'un qui, quand ça va mal, je me ferme complètement. J'ai comme une carapace et je ne parle plus, je ne reçois rien. Et parfois, je peux être vraiment bête dans ma manière de parler. Alors, dans tout le côté du mariage, à un moment donné, on a passé par des moments où on se comprenait pas, alors que moi, je disais, si je dis rien, c'est que tout va bien. Elle disait, il faut que tu me dises ce qui va bien, ce que, il y a des hommes et des femmes qui se rendent compte en ce moment, elle disait, ah, moi, je dis amen. Mais il y a quelque chose de fort quand tu comprends que l'autre a besoin et que tu es intentionnel envers l'autre pour dire, je vais te donner exactement la manière dont toi, c'est important. Ça, c'est le premier langage de qualité, le langage d'amour. Le deuxième, ce sont les moments de qualité. Et les temps vraiment de qualité, les temps ensemble, que ce soit justement avec un ami, vous dites, ok, samedi matin, on va marcher ensemble, on va faire du kayak, peu importe, en ce moment, il y a un peu de smog, mais attention, prenez vos masques à oxygène, puis faites le kayak comme on veut. Mais des temps de qualité, que ce soit parents avec enfants, de dire, en ce moment, mon plus jeune se lève à 6h du matin, des fois à 5h50, il vient me réveiller, papa, viens, on va au parc, on va faire une marche. Alors, des fois, il me réveille, je suis obligé d'y aller, mais c'est un temps de qualité qu'on prend ensemble à 15 minutes en marchant. Ça fait tellement du bien parce que je crois aussi que pour lui, le temps de qualité est vraiment quelque chose d'important. Le langage, ça, c'est un langage que Sophie et moi, on a ensemble. Le moment de qualité est vraiment pour nous ce qui nous ressource le plus dans notre besoin émotionnel. Et c'est d'avoir toute l'attention de l'autre. C'est pas passer une date night en étant sur ton iPad ou sur ton téléphone à juste essayer de commander et puis ensuite tu te parles pas. Le but est vraiment de passer un temps de qualité préservé de tout ce qui pourrait venir le gâcher. Et on parle pour les couples, mais ça peut être pour toutes les relations possibles. Pour passer un moment de qualité, c'est vraiment discuter et mettre l'emphase sur l'écoute de l'autre. Pas seulement je veux moi parler et expliquer, non, de vraiment prendre un temps de qualité où l'autre peut vraiment avoir l'espace pour exprimer, parler, rire, se raconter des jokes, peu importe, mais le temps de qualité est vraiment, vraiment important. C'est le temps, et vous savez, le temps est la ressource, entre guillemets, la plus importante de notre vie. Passer 20 minutes avec quelqu'un, c'est 20 minutes que tu ne pourras plus jamais réavoir à toi. Vous me comprenez? C'est pas comme si tu donnes un 20$ à quelqu'un. Le 20$ pourra revenir. À chaque paye, normalement, tu dois avoir des dollars qui reviennent. Le temps ne revient pas. C'est pour ça que nous sommes appelés, et puis même la parole le dit, hein, rachetez le temps. Faites en sorte que chaque journée soit une journée réussie. Et si on avait ce mindset-là en disant, les gens autour de nous, il y en a peut-être qui, pour eux, là, le temps, passer un 20 minutes ensemble, un midi ensemble, peut-être avec une voisine qui est toute seule depuis des années, des temps de qualité comme ça prouvent votre amour envers quelqu'un. Alors, il y a certaines personnes qui, eux, sont vraiment, vraiment très réceptifs à ce langage d'amour-là, les temps de qualité. Pour nous, vraiment, on se souvient pas forcément de qu'est-ce qu'on a acheté de grand dans notre vie. On se souvient souvent les moments de qualité qu'on a pris au bord du fleuve un jour. On a fait de la barque à New York. C'est des moments de qualité qui sont pour nous restés comme dans une banque de mémoire. Et ça fait que quand aussi, des fois, tu as besoin de te ressourcer même avec l'autre, tu repenses à ces moments-là. Ces moments de qualité sont vraiment des banques de mémoire, des banques de bonheur. Alors, je vous encourage, peut-être il y a des gens autour de vous que vous savez que à chaque fois que tu passes quelques minutes avec lui, il dit « Ah, merci d'avoir pris le temps, merci ». C'est peut-être des gens qui, eux, leur langage d'amour, c'est les temps de qualité.
Ensuite, le troisième langage d'amour, c'est les cadeaux offerts. Alors attention, on démystifie avant toute chose. Ça ne veut pas dire que la personne est beaucoup plus matérialiste que toi, mais pour elle, le fait que tu vas être intentionnel en lui offrant quelque chose va lui faire comprendre « Ah, il a pensé ou elle a pensé à moi ». Et le cadeau que tu vas lui offrir, le plus important ne va pas être la valeur de ton cadeau, mais le geste que tu vas faire envers cette personne. Puis petit conseil, n'attendez pas juste sa fête, qui est une fois par année, où vous parlez simplement son langage d'amour une fois par année. Ça, c'est la base, ok? La fête, ça, c'est sûr que c'est la base. Mais soyez intentionnel. Il n'y a pas besoin d'occasion spéciale et faites des cadeaux spontanés. Peu importe la valeur, la plus petite valeur soit-elle, mais ça va avoir un impact pour cette personne. Quand je parle de cadeaux spontanés, parfois, moi, je vois mes enfants qui, des fois, arrivent avec des fleurs puis qui ont arraché des fleurs dans le jardin. Et tous les parents me comprennent en ce moment, la pression monte, tu vois encore les racines, tu vois le gros trou dans ton jardin, mais l'intention est là, le geste d'amour est là. Alors, soyez intentionnels et parfois, ça peut être des petites discussions. Je sais que les dépensiers versus les économes ne se comprennent peut-être pas trop dans le couple, mais discutez-en, allouez-vous un budget cadeau, mais c'est aussi un des langages d'amour. Nous, notre garçon a 8 ans, puis je pense que, en plus, moi, je suis bilingue, mais lui, il doit être trilingue, je sais pas, mais les cadeaux, ça fait partie de son langage d'amour. Et un cadeau aussi simple qu'on lui avait fait, c'est dès qu'il était petit, on lui écrivait des cartes. Et on le voit encore aujourd'hui, maintenant qu'il sait lire, il ressort ces cadeaux-là et il prend le temps de le lire. Donc pour lui, c'est les paroles valorisantes, mais aussi les cadeaux. Donc on a trouvé le bon combo, mais soyez intentionnel dans ce langage d'amour aussi.
Exact. Le quatrième langage d'amour, ce sont les services rendus. Et ça, ce sont des actes qui parlent plus fort que des paroles. Certaines personnes, pour eux, si tu les sers, si tu vas faire si tu as besoin de déménagement, regarde, tu juste me dire la date, moi je serai là le premier. Pour ces personnes-là qui ont ce langage d'amour-là, c'est vraiment comme si vous leur écriviez dans le ciel avec une banderole d'un avion, je t'aime en grand. Les actes de service, pour eux, ça vient les toucher profondément. Est-ce qu'il y en a ici qui se reconnaissent? Non, on va pas mettre sur le spot. Hein. Tout le monde va dire, ouais, je vais à ton déménagement. Il déménage pas encore. Mais c'est vraiment, il y a un côté où c'est prendre la responsabilité de l'autre sur lui en disant, par exemple, dans un couple, c'est justement, si l'autre, c'est tous les jours, il doit sortir la poubelle, ben à un moment donné, moi, je sais que lui, il apprécie quand je viens et puis je fais des actes de service. Ben aujourd'hui, regarde, c'est moi qui vais prendre ta charge, ta tâche, peu importe. C'est de chercher à être intentionnel dans soulager l'autre avec des tâches peut-être ménagères qu'il a à faire ou justement des déménagements chez des amis. C'est Galates 5, 13 qui dit, hein, c'est dans la Bible, hein, de par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Et on ne parle pas juste de service spirituel comme on pourrait voir à l'église. Non, ça peut être mettez-vous au service. Est-ce qu'il y a, comme je le disais, parce qu'on a une voisine qui est veuve depuis des années, et puis souvent, on est là proactif à dire, est-ce que vous aimeriez qu'on aille acheter quelque chose? Et pour elle, même si elle nous répond non, parfois elle dit non, ça va, merci, tout va bien. Le fait qu'on puisse lui demander en disant, aimeriez-vous qu'on fasse ça pour vous? Juste ça démontre notre attention, notre amour pour elle. Alors, imaginez si on était autour d'une table avec des amis et puis que chacun, vous puissiez voir, vous aviez un super pouvoir, là, vous mettez des lunettes et puis vous voyez les langages d'amour à chaque personne. S'il y a une personne que vous savez que des actes de service, ça les toucherait vraiment. Qu'est-ce que vous pourriez dire dans une semaine, dans un mois? qu'est-ce que je pourrais faire pour lui que ça lui démontre vraiment comment je l'aime. Et vous savez, les meilleurs actes de service sont ceux qu'on n'a pas demandé. Ok, si ça fait 15 fois que tu demandes à ton mari, fais ça s'il te plaît pour moi, et qu'il le fait, c'est pas forcément un acte de service, c'est plus obligé parce que ça rentre dans ses oreilles à un moment donné. Il y a un côté où quand c'est pas demandé, quand c'est proactif, c'est quelque chose qui est vraiment vraiment apprécié. Et on rigole parce qu'à chaque fois que je parle de ma voisine, c'est qu'un jour il y avait beaucoup de feuilles d'automne, et puis elle est trop âgée pour pouvoir les ramasser. Donc avec la famille, on était revenus en disant on va aller ramasser toutes ces feuilles. Puis on avait passé une heure à le faire, on avait vraiment on s'était amusé, mais on le faisait pour elle. Et puis il y a un voisin qui vient nous voir en disant non mais elle ramasse jamais ses feuilles parce qu'elle pense il y a comme le compost naturel. Je suis comme t'aurais pas pu nous le dire avant, mais l'intention était quand même là, et puis les enfants étaient très contents de jouer.
On a passé un moment de qualité.
Ouais, c'est ça. On était frustrés à la fin, mais c'était cool pareil. Mais vous voyez, c'est comme un côté où qu'est-ce que je pourrais imaginer si l'église Nouvelle Vie Charlevoix là, à une soixantaine, 100 personnes peut-être d'ici quelques temps, passer dans Charlevoix et dans toutes nos relations, se disait comment je peux aimer mieux mes collègues, mes amis, mon couple, comment on pourrait entre nous avoir un amour tellement vrai, sincère. Tu fais pas ça pour gagner des points, tu fais ça vraiment pour démontrer l'amour de Dieu envers nous. Comment ça pourrait être un témoignage qu'une église, c'est aussi des gens dans la société qui font en sorte que les relations deviennent meilleures. Est-ce que vous pensez que dans notre société aujourd'hui, les relations ont besoin d'être meilleures? La confiance rétablie, l'amour sincère, sans rien gagner. Eh bien, ces actes-là peuvent être une des solutions.
Et le dernier langage d'amour, c'est le toucher physique. C'est prouvé scientifiquement que c'est dans notre nature humaine. Je vous partage une découverte qu'on a faite. De nombreuses recherches dans le domaine du développement de l'enfant démontrent que les bébés qui sont tenus dans les bras, qui sont bercés, cajolés, vont avoir une santé émotionnelle beaucoup plus saine que ceux qui vivent de longues périodes sans contact physique. En fait, un enfant, même avant qu'il puisse comprendre le mot « amour », par les gestes que vous allez avoir envers lui, va pouvoir découvrir ce qu'est le véritable amour. Et même au sein du couple, le toucher physique en fait partie, ça fait référence à la sexualité, mais pas uniquement. Simplement marcher ensemble, se donner la main, être proche l'un de l'autre est un des langages d'amour. Et combien croit qu'aussi dans nos amitiés, ça peut avoir un impact, donner un câlin, donner un hug, être intentionnel aussi envers les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être aussi leur langage d'amour, de les prendre dans les bras. Puis
homme avec femme.
Oui, c'est ça, bien sûr. C'est ça. On se complète ce matin. Mais aussi, je pense que le toucher physique peut être aussi un geste de compassion. Avez-vous déjà remarqué peut-être quand quelqu'un perd un être cher, le réflexe qu'on va avoir, c'est de pouvoir prendre cette personne dans les bras. Donc, c'est aussi un geste de compassion. Un câlin, un hug veut dire « je t'aime ». Et ça, c'est les 5 manières qu'on peut exprimer notre amour envers les autres. Mais l'ultime, je dirais, définition de l'amour selon Dieu se trouve dans 1 Corinthiens 13. Ça, je dirais, c'est le standard biblique que Dieu nous a donné. Ça dit ceci, « l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Dites « amen » n'importe quand, parce qu'en fait, je continue là. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen.
Amen. Et ça, c'est la définition de l'amour. Et puis, si vous voulez savoir si votre amour est à ce standard-là, changez le mot « amour » par votre prénom. Ouais. André est patient. André dit « amen ». Julien est bonté. En fait, c'est ça. Il a besoin plus de patience. Mais changez ce verset-là et puis mettez votre prénom et vous allez voir où est-ce que vous aurez des manques. Il y en a tous qui aiment. Oui, je me vante pas. Non, je suis pas orgueilleux. Mais parfois, de pas soupçonner le mal, ben c'est difficile parce qu'il y a des blessures dans ma vie, dans mon bagage, qu'à un moment donné, ben je fais plus forcément confiance. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive dans la méfiance. Dieu ne veut pas qu'on vive dans nos blessures, dans nos bagages. Même s'il les renie pas, il veut nous guérir pour que nous puissions aimer au standard que lui veut. Et parfois, vous savez, on pourrait se dire, ça c'est la définition ultime, c'est l'amour parfait, c'est Dieu, mais qui peut arriver à ce standard-là? Personne. Ni vous, ni nous, aucun être humain ne pourrait arriver au standard parfait. Par contre, Dieu ne veut pas justement qu'on puisse regarder avec un œil pessimiste les relations, l'amour qu'on doit avoir les uns avec les autres en disant justement, j'ai tellement été trahi, j'ai plus confiance. Ou j'ai plus confiance, bah, par exemple, dans les hommes. Ou j'ai plus confiance dans les hommes parce que j'ai été tellement trahi, j'ai tellement perdu confiance que... Aujourd'hui, Dieu a une bonne nouvelle, dit « je veux te guérir ». Et par l'amour que j'ai, moi, le Père éternel, au travers aussi l'amour de l'Église, tu as un bras qui t'entoure aujourd'hui spirituellement en disant « tu n'es pas seul mm-hmm. ». Et même si tu as vécu, puis on l'a tous vécu, passer par des moments où tu ne veux plus faire confiance à quelqu'un, où tu n'as plus d'espoir d'aimer à nouveau, tu n'as plus d'espoir d'être ami et proche avec quelqu'un parce que tu as été blessé. Dieu aujourd'hui, et c'est ça aussi la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que tu n'es pas obligé de subir ta vie. Dieu peut reconstruire toutes tes amitiés blessées. Il peut te redonner une confiance. La trahison peut être changée en confiance parce que le Dieu qui est là est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui a un espoir pour chacun d'entre nous encore? Et c'est pour ça que nous-mêmes, par nos propres forces, même notre bonne volonté, avec toutes les clés qu'on pourrait vous donner, psychologie, psychoéducation, peu importe, tout cela ne sera pas possible si Dieu n'est pas notre modèle. Et notre modèle ici, Dieu nous l'a donné, c'est Jésus-Christ. Et c'est notre troisième point. Notre modèle, c'est Jésus qui est, lui, l'amour parfait. Et l'amour de Dieu s'est ultimement manifesté à l'humanité, à nous encore aujourd'hui, au travers du don de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus est né il y a maintenant plus de 2000 ans. Et par sa naissance, qui avait été prophétisée des centaines de fois dans l'Ancien Testament, donc ça veut dire des milliers d'années avant que Jésus arrive, Jésus était attendu parce qu'il était le symbole d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle saison de vie que pour l'humanité, nous aurions quelqu'un qui viendrait nous sauver, nous aimer, démontrer le pardon de Dieu pour nous. Alors au travers de sa naissance, au travers de sa vie, au travers de ces rencontres, ces miracles qu'on va tout à partir de la semaine prochaine voir, les paraboles, les miracles de Jésus, c'est des rencontres incroyables qui pour nous sont des modèles. Mais aujourd'hui, il faut que nous puissions regarder à non seulement comment je peux aimer mieux, mais en fait comment Jésus peut devenir encore plus clair pour moi. Comment son amour peut devenir pour moi un modèle que je regarde et dans lequel je marche tous les jours. Vous savez, jusqu'à la mort de Jésus, dans sa vie, toute sa vie, Jésus a vécu une vie parfaite. Il a été tenté en toutes choses. Il a vécu les trahisons des amis, il a vécu les déceptions, il a vécu tout ce que l'humanité a vécu, mais en ne péchant jamais, en rien. C'est pour ça que même s'il a été tenté, il n'a pas succombé à la tentation. C'est pour ça que lui est notre modèle parfait. Tu pourrais regarder des grandes célébrités, des personnes en politique, des gens qui influencent, puis dire « waouh, ça c'est vraiment un modèle ». Même si ce sont des personnes qui peuvent vraiment être inspirantes, elles ne seront jamais parfaites. Seul Jésus a vécu une vie parfaite. Et c'est pour ça qu'il nous comprend. C'est pour ça qu'il n'est pas en train de nous regarder en disant « allez, pardonne-lui, c'est facile ». Non, non, moi aussi j'ai été trahi par des amis. Moi aussi j'ai été abandonné par ceux qui étaient censés me protéger et censés être là avec moi. Et Dieu, Jésus nous comprend. Et dans son humanité, il a vécu exactement ce qu'on a vécu. Mais parce qu'il a valider cette humanité devant Dieu, nous pouvons, nous, le regarder en disant « Il est le modèle parfait sur lequel je veux bâtir ma vie. » Jésus est en fait la plus belle preuve d'amour de Dieu envers l'humanité. Jésus est la plus belle preuve d'amour. C'est Jean 3,16, on l'a chanté tantôt. Hein. « Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Et pour moi, c'est le plus beau verset qui peut résumer la Bible au complet, l'amour de Dieu, celui qui est venu jusqu'à nous. Puis pour chacun de nous aujourd'hui, si tu l'acceptes comme ton sauveur, comme ton Seigneur, que tu choisis de faire un shift dans ta vie, que tu lui demandes pardon pour tes fautes, tes péchés, ta vie peut prendre tout un nouveau sens. Et lorsque tu l'acceptes, il est celui en fait qui devient cette source d'amour qui est inépuisable, qui te change, qui te renouvelle, qui t'apprend à mieux aimer Dieu en premier, mais aussi à mieux aimer les autres autour de toi. Et on est tous d'accord que parfois dans nos vies, on se sent limité. On n'arrive pas à donner assez de l'amour, à partager, à aimer suffisamment, à pardonner suffisamment. Mais c'est parce que je crois que ça nous arrive régulièrement de ne pas être assez rempli par la véritable source. Et Éphésiens 3:19 dit ceci, « L'amour de Christ surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, écoutez bien ça, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » pour pouvoir déborder envers les autres, faut que toi aussi tu puisses être rempli de l'amour de Jésus, de son esprit. Et crois-moi que plus tu vas être proche de lui, plus ça va se refléter dans tes relations. Et encore, la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est peu importe le stade de vie chrétienne que nous avons, ou quel que soit comment on est arrivé ce matin dans cette célébration, Jésus est la source à laquelle tu peux avoir accès encore aujourd'hui. Et vraiment, on prie ce matin, on est ici avec vous à Nouvelle Vie Charlevoix, mais notre désir, c'est que vous puissiez croître dans l'amour que vous ayez les uns pour les autres, mais que ça puisse déborder aussi à l'extérieur, dans la ville de Charlevoix, pour que des nouvelles personnes puissent connaître le véritable amour qui est Jésus-Christ. En fait, notre capacité d'aimer Dieu et les autres va dépendre aussi de la relation que tu vas avoir toi-même avec Jésus. Alors encore ce matin, il vient vers toi, il te tend la main et il veut t'offrir tout ce dont tu as besoin. Et on aimerait vraiment prier pour vous ce matin. On va vous inviter à pencher la tête, on va passer un temps dans la présence de Dieu, puis on aimerait vraiment prier pour vous. Et comme on le disait, Jésus est tout ce dont tu as besoin. Et peut-être tu es ici ce matin et tu dis, Sophie, Ben, moi en ce moment, ce que tu as prêché, les langages d'amour, d'aimer mon prochain, je le vis. J'ai une bonne relation avec les autres. Ça fait longtemps que je suis ici, que je suis à l'église de Charlevoix, que j'aime mon Dieu, je le sers de tout mon cœur. Mais ce matin, on veut t'inviter à venir encore une fois de plus à Jésus. Non pas comme un acte religieux, mais vraiment pour faire grandir cette relation que tu as avec lui, parce qu'il est la source d'amour inépuisable. Ses bontés se renouvellent à chaque matin et j'aimerais te dire que tu ne seras jamais trop rempli pour pouvoir déborder pour les autres. Peut-être toi, tu es ici ce matin et tu dis, cet amour, moi, j'aimerais le vivre. Mais par contre, il y a une saison dans ma vie, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que je n'arrive pas à pardonner. Je suis tellement blessée que je suis complètement fermée. Ce matin, on veut t'inviter en fait à venir à Jésus. Jésus, encore une fois, te tend la main. Il est celui qui change le mal en bien. Il est celui qui fait toute chose nouvelle. Il est celui qui vient te donner la paix. Il est celui qui vient te donner amour. Et peut-être si en ce moment, ta vision des choses est limitée, il te tend la main et il te dit ce matin, ce n'est pas fini. Fais-moi confiance, continue d'avancer avec moi. Et alors qu'on se préparait, on avait vraiment ça sur notre cœur. Tu te dis peut-être, j'aime les autres, mais je n'arrive pas à m'aimer moi-même. Pourtant, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu veux être capable d'aimer, d'être cette source d'amour, il faut que tu sois capable de t'aimer toi-même. Et on prie pour toi ce matin, que Dieu puisse te renouveler, faire toute chose nouvelle dans ton cœur, puisse la renouveler la vision que tu as de toi-même. Et encore une fois, saisis cette vérité comme on l'a chanté tantôt, tu es enfant de Dieu. Tu es choisi, tu es aimé de Dieu. Et encore ce matin, il te tend la main et il te dit, je veux marcher chaque jour à tes côtés. Et je ne sais pas où tu te retrouves ce matin dans cet appel, mais on veut vraiment prier pour toi alors que toutes les têtes sont baissées. Simplement, il n'y a personne qui regarde, c'est juste entre toi et Dieu. Tu as peut-être simplement ce besoin d'être renouvelé par l'amour de Dieu, d'être renouvelé dans l'amour que tu as pour les autres. Fais simplement lever ta main, on va prier pour toi ce matin. Il n'y a personne qui te voit. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour toutes les mains qui se lèvent. Dieu agit ce matin et il fait toutes choses nouvelles. Je vais encore laisser la chance à quelqu'un. Alors que toutes les têtes sont baissées, c'est peut-être pour toi ce dernier appel où Dieu veut toucher ton cœur, renouveler cet amour, changer tes circonstances, t'apprendre à mieux aimer, à pardonner. Les relations sont au cœur de toutes choses. Et crois-moi, lorsque Dieu marche avec toi à tes côtés, tout peut prendre un autre sens. Alors merci pour toutes les mains qui se sont levées ce matin. Seigneur, on est devant toi ce matin et merci pour ta présence qui est ici dans ce lieu, Seigneur Jésus. Merci parce qu'on réalise à quel point tu es grand, à quel point tu es bon, Seigneur. Et notre désir aujourd'hui est vraiment de t'inviter dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour la vie que tu as donnée pour nous, Seigneur. Merci pour ton amour parfait. Merci parce que tu es le rocher solide sur lequel on peut s'appuyer, Seigneur. Et ce matin, je te prie pour tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont ici dans cette salle, Seigneur. Tu les connais par leur nom. Tu connais chacun de leurs besoins. Tu connais leur histoire, Seigneur. Alors je te prie que par ton esprit ce matin, Seigneur Jésus, tu puisses venir faire le miraculeux, Seigneur Jésus. Tu es le seul qui est capable de le faire. Tu dis, ouvrez-moi simplement votre cœur et je vais entrer, Seigneur. Et c'est ce que ton Église fait ce matin, Seigneur. Je veux te prier aussi pour toute l'Église de Charlevoix, pour la région de Charlevoix, Seigneur Jésus. Que ça puisse être une Église, Seigneur, qui brille pour toi, Seigneur. Que ton amour puisse résonner partout au travers de cette ville, Seigneur Jésus. Que des personnes puissent s'ajouter, Seigneur Jésus, à cette congrégation, cette Église, pour pouvoir entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, parce que tu es bon, tu es fidèle, tu ne changes pas. Et ce matin, on veut répondre tous ensemble à ton amour parfait. Et c'est en ton nom que nous t'avons prié, Jésus. Et toute son Église dit un grand Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, applaudir notre Dieu pour ce qu'il a fait ce matin, le remercier, et on va le chanter tous ensemble.